que j'ai fait une découverte sur le pardon et que ce soir, j'aimerais vous entretenir de cette notion du pardon. Moi, lorsque on me parlait du pardon, et pensez donc, j'ai prêché pendant 25 ans, pratiquement 25 ans, avant que j'aie cette lumière un petit peu différente sur le pardon, j'ai parlé du pardon. Qui c'est qui n'a jamais entendu parler du pardon? Hein? On a tous entendu parler du pardon, n'est-ce pas? En tout cas, c'est des phrases et en tout cas des messages que nous apprenons. Et si on l'apprend pas tout de suite, il suffit qu'on marche quelque temps dans l'œuvre de Dieu et puis on l'apprend vite. Parce qu'il y a des souffrances, il y a des blessures. Et le pardon est quelque chose de fondamental dans le travail de guérison que Dieu veut faire dans son peuple. Et j'aimerais vous parler du pardon en prenant un premier texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Un texte que j'aimais pas. Je l'avais accepté parce que c'était comme ça, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ce texte. Verset 14, Matthieu 6, 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Alors, ça me dérangeait ce texte. C'était, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de possibilité. Ou je pardonnais, je suis pardonné, ou je pardonne pas, je suis pas pardonné. Conclusion, comme je suis pas trop fou, je me disais, il n'y a pas de solution, je suis obligé de pardonner. Et ça m'embêtait. Je ne me sentais pas libre. Dans ce texte, c'était comme une épée de Damoclès qui était sur ma tête, et si je le faisais pas, bing, elle allait tomber sur moi. Donc, j'étais comme obligé de le faire. Et ça me dérangeait. Et puis, j'ai compris ce texte et je vais vous donner un témoignage. Et les témoignages que je citerai ce soir, c'est des gens qui m'ont autorisé à en parler en public. Il y a une femme qui vient et qui me dit « Frère, j'en peux plus ». C'est le pasteur qui me la confie. Il me dit « Je sais pas que faire avec cette sœur. On a prié pour elle. On a fait tout ce qu'on peut. Il se passe rien. Essaye de voir si tu peux faire quelque chose ». Cette sœur m'explique. Elle me dit « Écoutez, frère, je ne prends plus la Sainte Cène. Je ne supporte plus ». Et je lui dis « Mais qu'est-ce que vous supportez plus ?» Elle me dit « J'ai une réaction vis-à-vis de mon aîné, de son fils aîné. J'ai une réaction que je n'arrive pas à contrôler. Je ne sais pas comment faire, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Parfois, mon fils, d'un coup, dans un élan, se lance dans mes bras et instinctivement, elle le repousse. Et dans la fraction de seconde où elle a repoussé l'enfant, elle s'arrête et puis elle veut le reprendre. Mais c'est trop tard. L'enfant est cassé déjà. » Il s'est pris déjà, c'est comme si on lui avait mis une vitre et il est rentré la tête la première dedans. Et puis après, ça posait des problèmes pour cette femme. Elle disait, mais j'arrivais au culte, mais je peux plus prendre la Sainte Cène parce que je demande pardon à Dieu. Ça fait des dimanches, ça fait des jours. Je demande à Dieu de me délivrer. Je ne comprends pas pourquoi ces choses ne changent pas. Je n'arrive pas. Et à ce moment-là, j'ai compris ce verset de Matthieu 6. Et je lui ai expliqué. Parce que j'ai discuté un petit peu avec cette dame, je dis, mais parlez-moi un petit peu de l'histoire de votre vie, en quelques mots, ne me racontez pas dans les détails votre vie, mais cet enfant, parlez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous rappelle, qu'est-ce qui se passe? Et cette femme m'explique que c'était une première union qu'elle avait eue, et que l'enfant qu'elle avait, c'était le fils de cette première union. Et dans cette première union, le mari qu'elle avait était un personnage qui était absolument exécrable, qui l'avait bruselé, qui l'avait battu, qui lui avait fait des sévices. Elle avait vécu un enfer pendant des années. Et c'est dans cet enfer-là qu'était né cet enfant. Et cette femme, lorsque son enfant venait vers elle, elle le repoussait, mais elle ne savait pas pourquoi. Moi qui étais extérieur, qui n'étais pas dans le problème, c'était, je dirais, assez facile de me rendre compte où était le problème. Et je lui dis, mais comment est-ce que vous avez réglé le problème avec votre mari? Elle me dit, vous voulez me parler du pardon? Elle me dit, frère, ne me parlez pas de ça, je ne peux pas le pardonner. J'ai trop souffert, je n'arrive pas à le pardonner. Et je lui dis, mais quelle est la bonne intention que vous avez dans votre cœur pour laquelle vous ne voulez pas le pardonner? Elle me dit, bien frère, j'espère que mon mari, parce que des fois, cet ancien mari, puisqu'elle s'était remariée, elle était devenue chrétienne, son mari était chrétien avec lequel elle avait eu d'autres beaux enfants aussi avec, et ce comportement, elle ne l'avait pas avec les autres. Mais son ancien mari avait des droits de visite et il venait des fois chercher l'enfant. Et chaque fois que cet homme arrivait, elle tremblait, elle n'arrivait presque pas à se contrôler tellement que la peur était là. Et dans sa réaction qu'elle avait, elle se disait, mais peut-être que mon mari, ça va lui ouvrir les yeux un jour, il va se rendre compte de ce qu'il m'a fait subir, de ce que j'ai pu vivre, et il va se rendre compte qu'il a besoin de demander pardon à Dieu pour qu'il change. L'intention de cette femme, c'était pas de pas le pardonner profondément, mais c'est que cet homme change, elle me dit en plus, il est avec une autre femme et il lui fait subir les mêmes choses. Et il faut que ça s'arrête. Alors c'était vraiment le cercle vicieux. Et là, je vais poser une question, je lui dis, mais est-ce qu'il vous apparaît, je comprends bien le message que vous voulez donner à votre mari, vous le voyez combien de fois, eh bien elle me dit, pas tous les mois, mais ça arrive une fois par mois, mais des fois plus. Donc, vous voulez dire qu'une fois par mois, admettons 12 fois par an, vous avez la possibilité d'essayer de faire passer un message. Je lui dis, est-ce que vous avez pensé que vous pourriez prendre un avocat et que cet avocat, si vous lui remettiez absolument la totalité du dossier, est-ce que vous vous rendez compte qu'il aurait peut-être la possibilité de lui parler beaucoup plus souvent ? Elle avait bien compris de quel avocat je parlais. Je parlais de Jésus qui est notre avocat auprès du Père. Et je lui dis, mais est-ce que... Alors elle a ri quand je lui ai dit ça, elle a souri, elle a bien pigé le message. Je lui dis, est-ce que vous pensez pas que lui est plus à la capacité, à des moments les plus incroyables de la journée, de la nuit, des moments où cet homme peut-être est en conflit intérieur, s'interroge sur lui-même, est-ce que vous pensez pas qu'il peut trouver les bons mots, les bonnes paroles pour aller parler à cet homme, pour qu'il change? Est-ce que vous pensez pas que si vous remettiez ce dossier à Dieu, il pourrait changer les choses? Elle me dit, c'est sûr que vu sous cet angle-là, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus compétent que moi, et puis je crois que c'est important que je puisse lui remettre ce dossier. Et puis après, nous avons fait un travail de pardon, sur lequel je ne m'étends pas, puisque je vais en parler. Je vais vous prendre un deuxième cas qui s'est produit. C'est une enfant, son père et sa mère sont missionnaires. Et cette petite fille, à l'âge de 3 ans, ses parents, sur un appel de Dieu, partent comme missionnaires qu'ils ont sur le cœur. Cet appel, ils partent en Afrique. Il se passe que, pour leur fille, comme elle était petite, vraisemblablement, je n'ai pas pu parler avec ses parents, le père est mort d'ailleurs, la mère vit toujours, mais vraisemblablement, je peux l'imaginer sans beaucoup me tromper, qu'ils se sont dit, l'emmener en Afrique, dans des climats qui sont différents, dont elle n'est pas habituée, il y a tout cela, eh bien, c'est mieux qu'on la confie à quelqu'un. Je comprends bien tout cela. Mais ce qui s'est produit, c'est que cette petite fille, à 3 ans, le matin quand elle est descendue, il n'y avait plus papa, il n'y avait plus maman. Elle a demandé où était papa, elle a demandé où était maman. Ah, ils sont pas là, ils sont partis. Mais pas d'explication. Le soir, au moment de se coucher, d'habitude, où le papa ou la maman était là, un petit peu inquiète, pour finir, elle s'endormit. Mais plus les jours ont passé, plus l'inquiétude de cette petite tounette a commencé de grandir. Elle a commencé d'avoir des peurs. Elle a commencé d'aller s'agripper à la grille qui est de la propriété pour attendre son père et sa mère. Elle les demandait. Jusqu'au moment donné où il y a quelque chose qui a cassé à l'intérieur d'elle, où elle s'est renfermée sur elle-même et sa communication avec l'extérieur a été énormément brisée. Et donc, elle s'est faite une raison, elle est revenue, elle a vécu, elle a grandi. Et cette femme, qui est une femme hyper compétente, cette femme a d'énormes problèmes de communication. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Nous avons parlé plusieurs fois, je les connaissais depuis un certain temps. Et après que Dieu m'ait parlé sur le pardon, quelques temps après, je les revois. Et puis le Seigneur me dit, parle-leur du pardon. Imaginez, fille de missionnaire, ça faisait un peu bizarre dans le paysage d'aller parler du pardon à ces braves gens-là. Mais je connais quand même un petit peu la voix de Dieu, et puis je sais que s'il dit quelque chose, il vaut mieux essayer. Je me suis dit, si tu te trompes, tu verras bien, mais parle-leur. Et qu'est-ce que je fais? Ils étaient là, avec son mari, les deux. Je lui dis, écoute, est-ce que tu me permets que je te parle du pardon? Alors elle éclate de rire en me regardant. Écoute Jean-Pierre, t'es bien sympa, je veux bien que tu me parles de ça, mais écoute, mon mari, tu le connais bien, tu sais, et puis tu sais bien ce qu'on enseigne et tout ça. Et je lui dis, est-ce que t'acceptes 5-10 minutes de folie? Est-ce que je peux t'expliquer ce que pour moi signifie aujourd'hui pardonner? C'est une femme intelligente, c'est quelqu'un qui n'était pas 5 minutes après, m'a dit, explique-moi. Et je commence à lui expliquer, et au moment où j'arrive dans mon explication, au point que j'appellerai centrale du pardon, cette femme explose devant moi. Elle hurle avec ses tripes. Vous savez, ce cri, cette souffrance qui sort du plus profond de son être. Mais jamais, comment je pourrais? Il a bouffé ma vie. Ils ont bouffé ma vie. Elle n'arrivait plus à dominer au niveau de ses pensées. C'était le profond de son cœur et de ses entrailles qui parlait. Et ça sortait. Quand j'ai vu ça, eh bien, je me suis dit, c'était peut-être pas à côté de la plaque. Et là, je lui ai dit, mais écoute ma sœur, je te propose, si tu veux, tu choisis, c'est toi qui es libre, tu choisis de pardonner si tu le veux. Mais pour moi, il y a quelque chose de fondamental dans le pardon, et si on évite la justice dans le pardon, je dis, c'est un pardon peut-être bien gentil, mais on évite la croix. Alors elle me regarde stupéfaite, parce qu'elle avait toujours pardonné au nom de Jésus. Bien entendu, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a reçu un coup, lorsqu'on a été agressé par quelqu'un, par une parole de quelqu'un, si c'est quelque chose qui nous a fait pas trop mal, qui nous a donné un petit coup de couteau, ben, la nature et Dieu a bien fait les choses. Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous passez votre nuit à prier si vous êtes coupé un peu à un doigt? Ou bien est-ce que vous savez que la nature que Dieu a fait et que votre corps a la capacité, à moins que vous ayez un problème à votre dans un de vos systèmes principaux, mais normalement, si tout va bien, ça va se guérir tout seul, ça va se refermer, les choses vont redevenir tout à fait normales, n'est-ce pas? Et il y a des coups qu'on prend, je dirais que c'est relativement facile de pardonner. C'est relativement facile de passer par-dessus. Mais il y a des coups qu'on prend qui nous blessent profondément. Où là, c'est pas simplement une égratignure ou un petit coup de couteau qu'on a eu, mais c'est quelque chose qui vient et qui détruit à l'intérieur de l'être, qui casse, qui va briser des parties à l'intérieur au plus profond du cœur de l'être. Et lorsque cette blessure est profonde, la personne, lorsqu'on lui parle de pardon, cette blessure est tellement vive, c'est comme quelqu'un qui a un grand brûlé, on ne sait pas par où l'empoigner, parce que ça lui fait mal. Et d'aller lui balancer à la tête, mais il faut pardonner, il le sait bien, il n'y a pas besoin d'aller lui le dire. Mais ce qu'il a, c'est qu'il a besoin qu'on prenne en compte sa souffrance et ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et je lui dis, ma sœur, je ne crois pas que ce problème de pardon soit réglé si on oublie de parler de la justice de Dieu. Je vais faire une métaphore en disant, eh bien, admettons qu'on ait un côté qui soit amour. Notre côté amour, hein, moi si je pense à ce que Jésus a fait dans ma vie, qu'il m'a pardonné et qu'il m'a libéré de mes péchés, ben, j'ai été touché par cet amour, et devant cet amour de Dieu, je me dis, si Dieu m'a pardonné avec tout ce que j'ai fait, ben, je peux quand même bien pardonner ceux qui m'ont fait des blessures, qui m'ont fait certaines choses. Et je dirais que ce côté amour de moi, il veut bien pardonner. Si c'est quelque chose qui n'implique pas profondément le profond de mon cœur et de mon être, ça suffit, ça passe, ça va. Mais si on est blessé profondément, si on a été cassé au niveau des cordes sensibles de notre être, si ce qui compose vraiment l'être que nous sommes, s'il y a des choses qui ont été piétinées et cassées, ça va différemment. Parce qu'on se dit, mais où est la justice dans cette affaire-là? Et cette femme ne voulait pas pardonner le premier mari qui l'a brûlé et tout ça. Pourquoi elle ne voulait pas le pardonner? Parce que pour elle, ce qui était le côté amour d'un côté, elle voulait bien, mais c'était pas juste. Ah, lui, il fait n'importe quoi, il fait ceci, il fait cela, on passe l'éponge, et puis tranquille, il peut continuer, merci, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et moi. Je reviens au deuxième cas de cette sœur qui a été abandonnée par ses parents. Je lui dis, ma sœur, il y a une question fondamentale au préalable à tout pardon, c'est la question: est-ce qu'il y a péché, oui ou non, dans ce que ses parents ont fait vis-à-vis d'elle? Lorsque quelqu'un me fait du mal, si je veux entrer dans un pardon et mettre et planter le décor de la croix, la question fondamentale qui m'amène à la croix, c'est une question de justice. Si vous enlevez la justice de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Vous n'avez plus qu'un Jésus qui est humaniste et qui n'a pas besoin de venir en croix. La croix a été plantée à cause de la justice de Dieu. Vous enlevez la justice dans le pardon, vous n'avez plus besoin de croix, vous n'avez plus qu'un Jésus humaniste. Et ce Jésus humaniste qui vient et qui aurait très bien pu, il y a 2000 ans, dire, vous avez compris, messieurs, mesdames, chers amis, à tous ceux qui le suivaient, vous vous êtes bien rendu compte que vous êtes des pécheurs, hein, que vous êtes pris là-dedans jusqu'en haut, vous ne pouvez pas vous en sortir. Comme Dieu seul peut pardonner les péchés, comme je suis l'envoyé de Dieu, eh bien moi je vais vous dire que si vous me confessez vos péchés, si vous me dites que ça ne va pas, si vous me confessez cela, eh bien je peux vous pardonner. Et à partir de ce moment là, si vous croyez en moi, je vous pardonne. Il aurait très bien pu le faire. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Oui ou non? Pourquoi il y a eu la croix? Parce qu'il y a la justice. Et si on n'appelle pas péché ce que Dieu appelle péché, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien les gens vont trouver plein d'excuses. Et lorsqu'ils vont vouloir pardonner quelqu'un, ils vont lui trouver toute une foule d'excuses. Et je commence maintenant à connaître la chanson, comme on dit. Lorsque je parle avec les gens et que je leur dis, comment, apprends-moi à pardonner. Dis-moi comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Eh bien, ou quand je dis aux gens, maintenant pardonnez, qu'est-ce que les gens disent? Ah bien Seigneur, tu vois, ma mère ne savait pas, elle a eu une enfance malheureuse, elle a eu ceci, cela, elle ne te connaissait pas, et tagada, et on sort saladier comme ça d'excuses, et à cause de ces excuses-là, bon, on arrive à s'arranger plus ou moins en disant, bon c'est mal ce qu'elle m'a fait, mais si j'étais à sa place, j'aurais peut-être pas fait mieux qu'elle, tout ça. Ça résout rien. Si c'est une petite blessure, ne parlez même pas de pardon, ça va se guérir tout seul. Entre guillemets. Hein. Je mets une grande nuance. Pour moi, il n'y a que le sang de Jésus qui pardonne et qui purifie et qui guérit profondément. C'est clair. Mais si dans le pardon, si je ne déclare pas ce que Dieu déclare dans cette situation, je fais l'économie de la croix, même si je dis que je pardonne au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit à cette sœur qui en connaissait sur la Bible certainement encore plus que moi. Elle tenait en deux pages de Bible. Je lui dis, ma sœur, maintenant, je vais te proposer d'être pratique. Je suis quelqu'un de pratique, j'en ai ras-le-bol de toujours ces théories fumantes dans la tête, de faire les choses. C'est trop compliqué pour moi. Trop compliqué. Excusez-moi, mais c'est trop compliqué. Je lui dis, écoute, t'as un problème avec ton père. Où est-ce qu'on met ton père ici? Allez, on va dire qu'il est là. Mettez-le dans une chaise où vous voulez. Je dis, tu le mets là. Parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi pour mettre en œuvre la parole de Dieu. Je lui dis, tu mets ton père là, ça surprend les gens, ou autre, c'est ma manière de faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais, je lui dis, tu mets ton père. Et je lui dis, maintenant, la Bible, qu'est-ce qu'elle me dit? La Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et je dis à cette sœur, je dis, ma sœur, on n'ira pas plus loin dans le pardon si tu ne te mets pas en accord avec ce que Dieu dit par rapport à ce qu'ils t'ont fait. Alors, je lui dis maintenant, tu vas dire à ton père, c'est ce qui se passait dans sa tête, si vous voulez, dans son cœur, mais moi, c'était plus facile de l'écouter, puisque la Bible nous dit de confesser, de sortir de la bouche, et d'être pratique, ça allait lui permettre de mettre en action sa foi et d'agir. Je lui dis maintenant, est-ce que tu es d'accord que la parole de Dieu ait autorité et que tu dises à ton père, papa, lorsque tu m'as abandonné, tu as péché contre moi, et le salaire du péché, c'est la mort. Ah, c'est une autre chose que de dire, papa, excuse-moi. Ben, vous savez, elle n'a pas pu. Pourquoi elle n'a pas pu? Parce qu'il y a deux versets qui sont venus dans sa tête. Le premier verset qu'elle a eu, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et dire ça à son père, qui était serviteur de Dieu, de dire ça, ça passait pas. Deuxième verset, alors là, qui barricadait toute l'histoire, c'était, si tu touches à loi de l'Éternel, tu touches à la prunelle de l'œil de Dieu. Et je savais que ce problème ne se réglait pas si on ne rentrait pas sur la dimension de la parole de Dieu et de ce que Dieu dit. La base de tout changement, pour moi, dans la vie chrétienne, passe par un accord du verdict de Dieu sur une situation, quelle qu'elle soit. Si je suis en dehors de cela, je peux. J'ai des techniques, j'ai appris des techniques pour faire des changements, ça marche. Ça marche pour un peu. Mais ça marche pas. Ça ne va pas nettoyer au plus profond de la conscience de l'être humain. Comme hier soir, je vous rappelais ce verset, que le sang de Christ a la capacité de nettoyer notre conscience, notre inconscient, descendre jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais cette sœur, elle pouvait pas. Il y avait un blocage. Elle n'arrivait pas à se mettre en accord parce qu'elle disait, mais je porte un jugement sur mon père et ceci et cela. Je lui dis, mais c'est pas ce qui est important, c'est pas ce que Jean-Pierre pense, mais qu'est-ce que Dieu pense là-dessus? Et là, j'ai retourné le problème. Je lui ai dit, ma sœur, elle a des enfants. Je lui ai dit, si toi, tu abandonnes ta fille pour aller servir Dieu avec ton mari, tu la laisses là et tu l'abandonnes et tu la vois pas pendant des années parce que ses parents ne lui avaient rien dit. S'ils avaient préparé l'enfant, s'ils lui avaient expliqué, s'ils lui avaient dit tout un tas de choses, les choses auraient pu se passer peut-être complètement différemment. Mais ils sont partis comme ça. Je lui ai dit, si toi tu abandonnes tes enfants, c'est juste ou est-ce que c'est faux? Ah, c'est faux. Ah, pour elle c'était faux, pour son père ça l'était pas. Je dirais, tu aurais péché ou tu aurais pas péché? Oui, j'aurais péché. Et pour ton père? Et mon travail, je veux pas allongé là-dessus, mais mon travail le plus difficile a été de lui faire prendre conscience de ce que Dieu dit. Et il n'y a rien de pire que celui qui appelle bien ce qui est mal et que celui qui appelle mal ce qui est bien. Et là, il y avait un retournement de situation. Elle se sentait culpabilisée de ne pas avoir pu régler ce problème, d'en avoir toujours au plus profond d'elle-même. En réalité, elle était victime et en plus, c'est elle qui traînait l'accusation, qui traînait, je dirais, ces petites idées qui viennent en disant « Mais c'est toi, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas ceci ou cela » et tout. J'en viens au fait. Je lui dis « Ma sœur, si on ne se met pas en accord avec la parole de Dieu, eh bien je ne crois pas que ça nous sert d'aller plus loin. » Et je lui dis « Maintenant, ce que tu vas faire, est-ce que tu es d'accord que la parole de Dieu ait autorité ?» Ce n'est pas toi qui juge ton père, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu merci, j'avais le texte de 1 Timothée 5, hein, où il est dit que celui qui abandonne, enfin qui ne s'occupe pas de sa famille, a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Attention, quand je vais citer ce verset, ah oui, c'était une autre façon. Même que ce soit pour l'œuvre de Dieu ou quoi que ce soit, quand Dieu nous confie des enfants, quand nous avons une famille, nous sommes responsables de cela. Et il n'y a rien, et Dieu ne va pas refaire une autre Bible pour vivre autre chose. On a tellement vu de massacres à cause de cela. Elle a commencé à dire, en pleurant, dans un combat terrible qu'elle avait, « Papa, lorsque tu m'as abandonné, tu as péché contre moi. Et le salaire du péché, c'est la mort. » Et quand elle l'a dit, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, « À ce moment-là, j'ai un poids qui m'est tombé des épaules. » C'est là qu'elle a été libérée. C'est parce qu'elle s'est mise en accord avec ce que Dieu disait. Je vais vous donner un autre cas. Une femme, à l'âge de 8 mois, son père a abusé d'elle. 8 mois. Sa vie de femme a été une galère. Dieu merci, il a mis des systèmes de sécurité à l'intérieur de notre être, ayant des systèmes de sécurité qui a fonctionné, c'est-à-dire une amnésie. Elle a fait une amnésie jusqu'à une certaine date dans son histoire. Elle pouvait essayer de regarder derrière, il n'y avait plus rien. C'était le vide de total. Dieu a permis qu'il y ait ce système de sécurité, un fusible qui a sauté, pour pas qu'elle devienne folle ou que sais-je. Mais, il y a quelques années en arrière, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va remettre ça en lumière, parce qu'elle dit, « Seigneur, j'ai un malaise. » C'est une femme de serviteur de Dieu, une femme qui est engagée dans l'œuvre de Dieu. Et cette femme dit, « Seigneur, cette souffrance était restée pendant toute l'histoire. Elle a servi Dieu, ça faisait plus de 20 ans, pratiquement 25 ans qu'elle servait Dieu. Donc c'était quelqu'un qui, vous la rencontriez ou autre, qui était accueillante, qui faisait un travail fantastique. Mais à l'intérieur, au plus profond de son être, elle avait un malaise. Mais c'était comme ça. Elle a dit, « Seigneur, je suis dans un temps où ça a besoin de se régler. » Et Dieu a fait ressortir les choses. Elle a vérifié ce qui lui est revenu, parce que Dieu a permis que tout ressorte. Il a levé cette amnésie. Tout est ressorti, la situation. Elle a compris une foule de choses. C'était un immense choc déjà pour elle. Et ensuite, elle a vérifié auprès de sa mère, et son père vit toujours aussi, mais bien sûr, c'était pas possible d'en parler avec son père, mais avec sa mère, elle en a parlé. Et sa mère, elle lui a dit, c'était tout à fait exact. Elle a vérifié que ce soit pas des idées qu'elle se soit faites. Au moment de faire le travail du pardon avec elle, je lui dis, je fais toujours la même chose, je lui dis, où est-ce que tu mets ton père? Tu le mets par là. Elle ne supportait pas la présence de son père à 2-3 mètres. Elle a dû le mettre beaucoup plus loin. Parce que je lui ai dit, mets-le à une distance qui soit suffisamment confortable pour toi. Mais ce qu'on va faire, on va pas être des théoriciens de la parole, mais on va être des praticiens de la parole de Dieu. On va mettre en pratique la parole de Dieu. Elle a mis son père. Et puis, je lui ai dit, maintenant, tu vas exprimer. C'est important que les gens sortent la souffrance qu'ils ont. Et je lui ai dit, tu vas dire à ton père, entre guillemets, mais il avait besoin de sortir tout le pu, tout ce qu'il y avait. Et je lui ai dit, tu ne vas pas dans la dentelle, tu commences pas à prendre des beaux petits mots gentils et tout ça. Tu dis le fond de ce qu'il y a, parce que les mots correspondent à des expériences personnelles que nous avons. Et chaque mot a une représentation tout à fait personnelle. Et ce qu'il avait besoin, c'est de dire les vrais mots, ceux qui collaient exactement à la situation. Et elle a sorti cette souffrance. Et d'un coup, la même réaction. Mais ça, je lui pardonnerai jamais. Il m'a bouffé 40 ans de ma vie de femme. Qu'est-ce que je voulais lui dire? J'avais pas dit, il faut, tu dois, ça sert à rien. Et d'un coup, j'ai compris quelque chose. Alors là, c'était une révélation. Cette parole dans Pierre, lorsqu'il dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et je lui pose une question très simple. Quel âge a ton père dans le souvenir que tu as? Surprise, elle me répond du tac au tac. Ben, l'âge qu'il avait, il avait 30 ans, 28 ans, 30 ans à peu près. Et à ce moment-là, comme j'avais ce verset que Dieu m'avait donné, je lui pose cette question. Est-ce que tu veux accepter que ton père te dicte toujours le comportement que tu dois avoir avec les hommes, ou est-ce que tu veux quitter ce maître-là? Alors la réaction était aussi violente. J'en veux plus! Elle me l'a hurlé. Lorsqu'on ne pardonne pas quelqu'un, la souffrance qu'on a est un maître en nous. Elle nous oblige de penser d'une certaine manière. On ne peut pas penser à la personne en étant libre, mais on est dominé par ce qui a triomphé à l'intérieur de nous. Retournez le problème comme vous voulez, vous verrez bien. Si vous connaissez des gens ou si ça vous arrive, on est obligé de penser d'une certaine manière. Parce que ça nous domine. C'est à l'intérieur, c'est comme un maître. Et là, elle ne voulait plus de ce maître-là. Alors je lui ai dit, elle, c'était beaucoup plus facile. Elle était complètement d'accord avec la parole de Dieu qui disait que le salaire du péché de cet homme, c'est la mort. Et frères et sœurs, c'est pas pour rigoler. Hein. C'est la réalité. C'est pas autre chose. Si cet homme ne change pas, si cet homme ne se repent pas, c'est l'enfer pour lui, un point, c'est tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'espèce de situation bancale, plus ou moins ceci. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Je vous donnerai un dernier témoignage. C'est l'histoire d'un homme qui a erré pendant des années. Et comme ça, par hasard, il n'y a pas d'hasard, vous me direz, mais Dieu fait que les choses sont ainsi et je me retrouve avec cet homme. Il y a des choses que j'aimerais parler avec vous. Et cet homme avait une souffrance qui était inimaginable. Ses parents étaient des militaires français, son père et sa mère étaient des militaires français. Et ils ont eu cet enfant juste avant de partir et ils ont été envoyés au Vietnam, à la période du Vietnam. Et cette personne s'est retrouvée au Vietnam. Cette personne a subi un traumatisme qui est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce petit gamin, à l'âge de 3 ans, les derniers souvenirs qu'il a vivant de ses parents, c'est être dans un camion militaire, ça tire de partout, ça explose de partout. Ça, c'est les derniers souvenirs vivants qu'il a. Le souvenir suivant qu'il a, il est resté une journée, à 3 ans, devant des piquets qui étaient plantés. Il y avait la tête de son père et la tête de sa mère qui étaient sur les piquets. Et pendant toute la journée, ils ont été obligés de regarder leurs parents. Et les parents avaient été attrapés, on leur avait coupé la tête. Ils étaient plus d'une trentaine d'enfants. Cet homme m'a raconté, il m'a dit, je suis le dernier survivant. Il avait été trouvé, il y avait une dame de la Croix-Rouge qui les a ramenés ensuite en France, parce que comme c'était des enfants, ils les ont laissés venir. Mais voyez un petit peu ce qui a hanté les jours, les nuits de cette vie d'enfant et d'adulte. Et il avait une souffrance d'avoir perdu ses parents, mais il avait aussi une colère contre ses parents, en disant, mais pourquoi mon père et ma mère ont voulu un enfant alors qu'ils avaient choisi le métier de tuer? Il comprenait pas ça. Ça le dépassait complètement. Il ne pouvait pas accepter de vivre un enfer comme il vit. C'est avant qu'ils auraient dû réfléchir. Mais ils étaient morts, c'était fini. Il en avait appris Dieu. Et ce qui a débloqué notre entretien, c'est quand il m'a parlé de ça. Vous savez ce que je lui ai dit? Je dis, moi si j'étais à ta place, j'aurais une drôle de dent contre Dieu. Je l'en voudrais très fort. Et il a explosé en pleurs. Et il m'a dit, mais pourquoi on m'a jamais dit ça? Parce qu'il avait refoulé ça, refoulé ça, refoulé ça. Parce qu'il y avait une incompréhension, pourquoi Dieu m'a pas protégé mes parents? Il y a une grande question qui était là. Qui avait besoin de trouver une solution. Et vous savez où était Jésus à ce moment-là? Eh bien, il est en train de mourir sur la croix pour que cet enfant puisse être pardonné et d'être guéri. Jésus n'était pas absent. Mais les hommes avaient fait des choix. Ils avaient fait le choix de faire la guerre. Ils ont fait le choix de tuer. Ils ont fait le choix de détruire. Mais Christ et Dieu étaient en train d'en mourir. Cette femme, quand elle était violée, Dieu n'était pas absent. Christ était en train d'en crever. Permettez-moi ce mot. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est pas une petite mort gentille, comme on voit souvent sur les représentations qui sont faites, qui me font graisser des dents aujourd'hui. Comme ça, mort, un petit jeune homme, comme ça. Non. C'est, si vous lisez Ésaïe 53, il est mort dans des souffrances et dans une atrocité. Il a été enlevé par l'angoisse et la souffrance. Son visage se tordait. C'est pas un petit, quelqu'un quand il est mort dans la souffrance, je sais pas si ça arrive d'aller dans les hôpitaux ou autre, ben ça se voit si quelqu'un est mort dans la paix ou pas. Mais là, c'était quelque chose de terrible. C'était quelque chose de terrible. Là, il a pu comprendre que Dieu ne l'avait pas abandonné, mais que Dieu était là et qu'il faisait ce qu'il pouvait. C'est-à-dire, ce qui avait de plus efficace, c'était de donner sa vie pour sauver, pour le racheter, et qu'il n'était surtout pas absent de la situation. Et donc, avec cet homme, on a fait un travail aussi de pardon vis-à-vis de ses parents. On a fait un travail de deuil, bon ça c'est, la Bible est fabuleuse à côté de ça. Ésaïe 61, c'est dans le cadre du deuil. Hein? Changer un vêtement de deuil en vêtement de louange. Ça c'est la grâce de Dieu. Et vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand je prêchais il y a quelque temps ce message sur le pardon, il y a une femme d'un coup qui a commencé d'avoir des douleurs comme si elle allait accoucher. Elle n'était pas du tout enceinte. Et c'était un souvenir de 20 ans en arrière où elle avait avorté. Qui était en train de se réveiller en elle. Une blessure et quelque chose qui n'avait pas été réglé. Et Dieu a pu faire ce travail, d'une part, de pardon, de régler elle son problème, mais aussi de pouvoir vivre un deuil et de pouvoir confier cet enfant à celui qui juge justement, qui est vivant. Et ça, c'était quelque chose de fantastique. Parce que tout le restant, je dirais, du pardon, on l'a bien compris, vous l'avez bien compris. Mais j'aimerais insister, frères et sœurs, si nous enlevons la justice, si on enlève la justice, on enlève la croix. Si je ne rends pas justice, si je pêche contre vous, si je pêche contre le frère qui est ici, comment c'est la solution? C'est que j'ai besoin de reconnaître mon péché, c'est que j'ai besoin de le confesser, et sans la confession de mon péché, sans l'abandon de ce péché, si je l'ai blessé, d'aller faire aussi un travail qui va être la conséquence de ce dégagement, de ce pardon que Dieu va me faire, si je le fais pas, il va rien se passer, je vais rester avec cela, ma vie ne va pas se dégager. Et lorsque nous subissons, vous avez bien compris ce soir, que ce que je vous parle, c'est de la souffrance que nous subissons de la part de nos parents à l'école. Il y a des gens qui ont été cassés quand ils étaient à l'école. Moi, j'ai réglé un problème avec maman, qui est une femme fantastique, qui prie et tout ça. Mais quand elle était enceinte, quand elle m'attendait, à cause de mon père qui était malade des nerfs et que c'était vraiment l'enfer à la maison, elle a dit... Pour moi, c'est un crime que de mettre au monde un enfant dans l'enfer dans lequel je vis. Et elle m'a rejeté. Elle ne me voulait pas. Elle voulait absolument perdre son enfant. Elle ne voulait absolument pas me garder. Et il s'est trouvé un serviteur de Dieu en la personne de Maurice Ray, qui est venu comme ça trouver ma maman, alors que c'était pas dans cette église qu'elle allait. Et il a posé cette question. Aucune affiancée, il a posé cette question. Madame, et si c'était un serviteur de Dieu que vous portez? Et c'est ce qui a arrêté le geste de ma maman. Et à l'âge de 21 ans, quand il me restait 3 mois à vivre à cause de ma tumeur au cerveau et que j'étais perdu médicalement, ma maman tenait toujours cette parole en disant « Mais Seigneur, j'ai gardé cette parole, c'est pour cela, dans la drogue et tout ça, que j'étais en train de vraiment d'en crever. » Et Dieu m'a guéri et je suis là aujourd'hui. Et toute notre famille, les cinq enfants de maman, servent le Seigneur. On est les 5 dans le travail de Dieu. Et ça, c'est une bénédiction. C'est pour ça que je vous dis ce petit mot. N'oubliez jamais de prier pour vos enfants. N'oubliez jamais, ne perdez jamais courage. Jusqu'au bout, vous savez pas. Mais Dieu a des promesses pour nos familles. Elles sont formidables. Et il les accomplit. Il les accomplit. Il sera sauvé, nous et notre famille. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Tenez fort ces promesses. Ne les lâchez pas. Mais moi, dans ce rejet, dans le ventre de ma mère, ça a provoqué des dégâts en moi. Eh oui. Je rentre pas dans les détails, je regarde pas l'heure. 10h10, ça va, vous avez encore un petit moment. Mais dans ce rejet que j'ai vécu, qu'est-ce que ça a fait? Maintenant, j'en parle, mais j'en ai jamais parlé avant. Je me suis toujours senti rejeté toute ma vie. Rejeté, je changeais ce mot, je me trouvais à part. Quand j'étais dans l'œuvre de Dieu, on avait des fois des conventions où il y avait 1000 personnes, je me sentais toujours à part. J'avais toujours l'impression d'être de trop. Vous savez, je me disais, si j'étais pas là, ce serait aussi bien. Je me suis senti seul des années et des années, mais j'en parlais à personne. Je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Et vous savez quand ça s'est guéri, ça? C'est quand Dieu m'a dit, quand ta maman t'a rejeté, elle a péché contre toi. Ah bon? Et j'ai dû régler ce problème avec ma maman. Je n'ai pas été la trouver en Suisse, puisqu'elle est en Suisse, et lui dire ça. Mais comme dit la Bible, j'ai été dans ma chambre, j'ai mis ma maman, j'ai dit, maman, tu sais, quand tu m'as rejeté à ce moment-là, tu as péché contre moi. Et le salaire de ton péché, c'est la mort. Vous comprenez bien que si j'enlève la réalité de ce qui a amené Jésus sur la croix, vous savez, il y a un texte dans les Épîtres, je ne me souviens plus ni de la référence, où il est dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Vous connaissez ce verset? Alors ce verset était génial pour me dire, bon, par amour pour les autres, je les pardonne. Et j'ai eu la chance de connaître un enseignant en hébreu et qui connaissait parfaitement le grec et tout ça, une personne qui connaît profondément, et il m'a expliqué ce texte et il m'a expliqué d'où il venait. Et il m'a dit, ce texte qui est utilisé là, c'est le texte qui est cité, je sais plus où, dans l'Ancien Testament, et qui symbolise le sang qui était répandu sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et donc, quand il a dit que l'amour couvre une multitude de péchés, ça veut dire que le sang a besoin de couler pour régler ce problème. Ce qui veut dire tout autre chose que ce que j'avais compris pendant longtemps. C'était pas de l'excuse au nom de l'amour. Parce que Jésus ne s'est pas excusé, mais il a pris mon péché. Et il en est mort. Et le salaire du péché, c'est la mort de Jésus, premièrement. Ce texte de Romains 6, 23, Jésus l'a expérimenté. Et la gravité de ce qui s'est passé pour les gens que je vous ai parlé, du rejet que j'ai eu ma mère. Vous savez, la gravité du problème, c'est que ça a coûté la vie à quelqu'un. Ça a coûté la vie de Jésus. On n'est plus dans l'excuse. On n'est plus en train de négliger un si grand salut. Mais on est placé dans la réalité de ce que Dieu appelle sa justice qui a été rendue. C'est par amour qu'il est venu. Mais si vous enlevez la justice, vous n'avez plus qu'un Jésus qui est humaniste. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que de l'humanisme, c'est bien, c'est joli, c'est beau. Tout le monde dit, il est beau, il est gentil. Mais ça ne me résout pas mes problèmes. Ça ne m'enlevait pas cette souffrance que j'avais là. Et le seul moyen que j'ai eu, c'est de faire quoi? J'ai placé maman. Je vais aller jusqu'au bout maintenant. Comment je fais? Je place maman. J'ai dit, maman, tu sais, quand tu m'as rejeté, si vous avez lu Thomas Matisse, hein, si vous connaissez cet homme qui a travaillé énormément sur ce qui se passe dans toute la période de l'enfance et des problèmes qui sont posés, il y a des choses qui sont stupéfiantes qui se passent à ce moment-là. Et on retrouve tout cela dans la parole de Dieu. La parole de Dieu en parle avec une précision absolument fantastique et phénoménale, et notamment dans Ésaïe. Mais j'ai placé ma mère, j'ai dit, maman, tu as péché contre moi. Le salaire du péché, c'est la mort pour toi. Premier point, au moment où je rentre dans la confession de ce que Dieu dit. C'est exactement l'inverse. Si moi, c'était moi qui étais à ma place, si j'ai péché, je reconnais le péché. Et à partir de ce moment-là, on a besoin de la croix et on a besoin de Jésus. Mais si on ne pose pas ce décor-là, on fait l'économie. Alors on s'arrange, comme on peut. Petite blessure, pas de problème, ça s'arrange. Grosse blessure, tiens. On peut reparler 40 ans, 50 ans, 60 ans, il suffit qu'on cite le nom de cette personne. Pour que tout ressort. Ça remonte d'un coup. J'étais en Belgique il y a 2-3 ans, quand il y a eu l'affaire du trou. Ça a secoué les églises en Belgique. Pourquoi ça a secoué les églises? Ben parce qu'il y avait des quantités de problèmes qui étaient enfouis dans le cœur des chrétiens, et ça a révélé ces choses. Ce qu'ils avaient réussi à refouler. Parce que si nous ne mettons pas la justice de Dieu dans le pardon, c'est un refoulement. Et j'ai enseigné les gens à refouler leurs problèmes. C'est du refoulement, c'est pas du règlement. Et Dieu ne demande pas de refouler, mais Jésus est venu payer, accomplir jusqu'au bout. Premier pas, reconnaître ce que Dieu dit. C'est juste, si c'est bien, c'est beau, il ne me reste plus que mes yeux pour pleurer. Mais s'il y a péché, j'ai intérêt à me mettre en accord avec la parole de Dieu. Mais, si je suis là avec ma maman, il y a un autre qui est avec moi. C'est Jésus. La Bible nous dit de prêcher quoi ? De prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ mort et ressuscité, Jésus-Christ crucifié. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je mets Jésus à côté de moi. Je dis, je m'adresse à lui, et la Bible, qu'est-ce qu'elle fait la Bible ? Elle provoque des images en moi. Si je vous dis le mot pain, qu'est-ce que vous avez vu dans votre tête ? Vous avez vu une banane ? Maintenant je vais vous dire banane, vous avez vu quoi ? Hein? Quand on dit un mot, ça y a une représentation qui vient. Quand on dit Jésus sur la croix, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez Christ ou est-ce que vous voyez juste un morceau de bois ? Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Vous avez entendu cette hérésie que j'ai véhiculée pendant un certain nombre d'années, de dire aux gens. Et c'est ce que Jésus m'a dit, en passant dans cette région-là. Il m'a dit, quand tu dis aux gens, venez déposer vos fardeaux au pied de la croix. Vous avez déjà entendu cette phrase-là ? Venez déposer au pied de la croix. Jésus aurait voulu que ça soit posé au pied de la croix. C'est en son corps, et il en est mort. Le diable a eu, mais alors, il ne veut pas le message de la croix. Il n'en veut pas. Allez les poser au pied de la croix. Vous verrez si ça s'en va. Non, c'est en son corps. Et la croix, si c'est qu'un morceau de bois dans ma tête, ça n'a aucune signification. Ce qui est important, c'est celui qui est sur la croix. Et quand je regarde à un Christ comme le dépeint la parole de Dieu, comme on le lit dans les Écritures. Et qu'est-ce que je dis ? Seigneur, je m'adresse à lui, je dis, Seigneur, tu as porté aussi le péché de maman ? Et qu'est-ce qu'il répond ? Oui, il l'a porté aussi. Et qu'est-ce que je fais ? Je suis quelqu'un de pratique, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis comme ça. Eh bien, je vais jusque vers ma maman. Et je prends par la foi, comme si je prends le paquet de linge sale, peu importe, on s'en fiche de la forme. Mais je veux mettre en pratique la parole de Dieu, parce que j'en ai ras-le-bol de la connaître, de la savoir. Ça ne change rien dans ma vie, c'est l'action de la parole de Dieu que j'ai. Je le prends et je dis, tiens Seigneur, par la foi, je crois en un Christ qui est là, je te le donne Seigneur. Et je laisse passer les Écritures. Et pour cette petite qui a été abandonnée, Jésus a été abandonné par le Père. Parce que lorsque le péché de ce Père, ce missionnaire qui a abandonné sa fille est tombé sur Jésus, lorsque ce Père qui a violenté sa fille, lorsque ce péché est tombé sur Jésus, Jésus a été coupé du Père, lorsque ma mère m'a dit des paroles, ou lorsque des gens écoutent des paroles assassines et qu'ils ont entendu dans leur enfance, leurs parents ont péché contre eux, les ont cassé des choses en eux. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'était normal, tout le monde faisait comme ça, tout le monde dit la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que Dieu en pense ? Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais vous relire Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, ça c'est la réalité de la vie personnelle de Jésus comme il l'a vécu. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Et si je n'appelle pas péché lorsque ma mère me rejette, si je n'appelle pas péché, je ne fais aucun cas de ce que Jésus a payé. C'est pas autrement. Qu'est-ce que je fais ? Et alors, bon, moi je restais avec, ah oui, des années, je restais seul, je me sentais seul. Un peu à part, un petit peu, vous savez, un petit peu comme un lépreux quelque part. Bon, personne ne le savait, ça c'était ma vie privée, ça regardait personne. J'allais surtout pas le dire. Mais le jour où Dieu m'a montré la réalité des choses et des dégâts que ça avait fait, et que j'ai dit, Seigneur, si tu as pris le temps de mourir pour moi, je vais prendre le temps de régler un problème après l'autre. Il me faudra du temps, ça fait rien, je le prendrai. Mais j'ai décidé de régler. Et je vous dis pas tout ce que j'avais à régler avec mon père. Et des fois, ça m'arrive d'en régler encore. Parce qu'avec mon père, je voulais lui faire la peau. J'avais vraiment de la haine contre lui. Et ça, je lui ai demandé pardon à mon père pour ça. Mais j'avais réglé le problème, moi, vis-à-vis de lui, mais lui vis-à-vis de moi. Et de ce qu'il m'avait dit et ce qui s'était passé. Ben, ça restait. Et si je ne suis pas guéri, je ne peux pas pardonner l'autre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous dis, si c'est une petite égratignure, pas de problème. Mais si j'ai été blessé profondément, les choses sont enfouies, les choses restent souvent au fond. Bon, vous comprenez bien, moi je vous explique une manière. Et ce qui est important, c'est que je replace bien l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ mourant sur la croix dans le pardon, parce que je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Parce que la plupart des problèmes qu'on a, c'est des problèmes relationnels avec les autres. Et je n'ai pas trouvé plus efficace que le sang de Jésus-Christ. On peut prendre ce qu'on veut, chacun fait comme il veut. Mais plus efficace que ça, je n'ai jamais trouvé. Plus libérateur que cette victoire de la croix, je n'ai pas trouvé. Et j'ai été esclave de ce que j'avais vécu tout petit, sans rien le savoir, cette empreinte dans cette brique fraîche qui a été faite. Ben, Dieu, dans sa grâce, avait la puissance de m'en libérer. Et de m'en guérir. Je reconnais que l'autre a péché. Je le dis. Je dis ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Deuxième étape, je me tourne vers Jésus. Je lui demande. Parce qu'on a besoin de se rappeler la parole de Dieu. Parce que c'est elle que Dieu va honorer. C'est pas ce que je dis ou ce que je pense. Mais c'est cette parole qui va honorer. Dire, Seigneur, est-ce que tu as porté ce péché? Et je peux écouter. Oui, je suis mort pour tous les hommes. J'ai porté les péchés de ta mère, porté les péchés de ton père. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je rentre dans la phase du pardon qui va être moi. Est-ce que j'accepte que le péché dont j'ai été victime, la souffrance et le coup que j'ai pris, est-ce que j'accepte que ça tombe sur Jésus? Parce qu'est-ce qui se passe? Les psychologues, les gens, j'en suis pas, mais j'ai lu suffisamment de choses pour connaître ce qu'on appelle la loi du transfert. Lorsque quelqu'un est agressé, lorsque quelqu'un, par exemple, subit des violences, quelqu'un, par exemple, qui est violé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand vous discutez avec ces gens, vous savez, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, vous savez ce que cette femme m'a répondu, m'a dit, à un moment donné, dans ce travail du pardon, elle m'a dit, mais pourquoi je me suis pas défendu? Je rêve, non? À 8 mois. Qui se voulait qu'elle se défende à 8 mois? Non, mais je rêve. Parce que lorsque quelqu'un nous a agressés, il y a un transfert qui est fait. Et c'est là que j'ai compris le verset d'Ésaïe 53, où il est dit que le châtiment qui nous donne la paix. Les gens, lorsqu'ils ont été agressés, lorsqu'ils ont été blessés, soit j'ai fait une erreur, soit j'ai été malhonnête, soit j'ai agressé l'autre, j'ai à confesser mon péché, à le régler. Mais si j'ai subi quelque chose qui m'est arrivé comme ça, sans que j'y sois pour rien, eh bien, il y a un transfert. Et la personne, elle est en train de culpabiliser. Alors, elle va le transformer en ressentiment. Et le ressentiment est quelque chose... C'est quoi le ressentiment? C'est de la colère déguisée. Et cette colère déguisée va souvent dérégler notre système immunitaire. On va commencer à faire de l'arthrite. Il y a des études qui ont été faites, même jusqu'à la sclérose en plaques, par des problèmes qui sont provoqués, par des souffrances et par des choses qui n'ont pas pu être pardonnées. Et des études qui ont été faites par différents médecins ont montré qu'un des moyens les plus puissants de se prémunir contre le cancer, contre les problèmes d'arthrite, d'arthrose, et puis de sclérose et de sclérose en plaques ou des choses comme ça, c'est le pardon. C'est le pardon. Parce que notre système immunitaire se dérègle et il commence d'attaquer des organes qui sont sains. Et c'est assez fou de ce qu'on peut voir. Je ferme la parenthèse. Mais pourquoi pardonner? Parce que lorsque quelqu'un m'a fait du mal, il y a un transfert. Je me sens un petit peu sali. Vous avez des gens, pour un coup, ils ont des réactions, ils se sentent tout sales. C'est pas eux qui ont péché. Leur mari a péché, par exemple. Et puis, quand il a péché, eh bien, la femme se sent salie. Elle dit, mais c'est toi qui as péché? Mais non, moi je suis resté pur, je suis resté propre, c'est mon mari qui était voir ailleurs. Et la femme se sent sale, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Si. Il y a comme un châtiment, comme si les gens, quelque part, il y a un transfert, le péché vient tordre les affaires, tordre dans notre façon de penser. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à remettre en règle, vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses à mettre en règle que ça autorise l'autre à faire des bêtises. En aucun cas. Même si je me comporte mal avec quelqu'un, excusez-moi de prendre quelqu'un, mais mettons qu'il y ait quelqu'un ici qui se comporte mal avec moi, en aucun cas, ça m'autorise à me comporter mal avec lui. Vous êtes d'accord? C'est normal, hein, le mec qui vient nous mettre un pain, on le met, hein. C'est normal, hein, comme l'autre, il prend une claque, il tend la joue, paf, il s'en prend une deuxième, il dit maintenant que la prophétie est accomplie, il l'attrape et lui met un grand pain. Bon, d'accord, c'est une façon de voir. Mais qu'est-ce que Jésus enseigne? Il enseigne la réaction. Ce qui va faire mal, c'est la réaction. Et lorsqu'on a subi un outrage, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'il y a eu un abandon, lorsqu'on a été rejeté, lorsqu'il y a des choses, ça provoque en nous toute une destruction à l'intérieur de nous. Et cette chose-là est en nous et on la porte. Même si on n'y est pour rien, ça nous bouffe la tête, ça nous bouffe la vie. Et frères et sœurs, soit c'est vous qui portez, soit c'est Jésus. Mais il n'y a pas d'autre choix. Et moi j'ai compris que je ne voulais plus payer. Ce que ma mère m'avait fait, c'était son problème. J'ai rendu à ma mère ce qui était à ma mère. J'ai rendu à César ce qui est à César. Si tu as péché contre moi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et j'ai besoin de lui le rendre. Et quand je rends cette justice, là, je suis rétabli au niveau de l'être que je suis. Mais j'accepte ou j'accepte pas que ça tombe sur Jésus. C'est ou lui ou moi. Quand vous écoutez attentivement les gens, j'ai appris à... avec le temps quand même écouter les gens, que les gens me disent « j'ai pardonné un tel ». Vous écoutez le « j'ai », tout le poids est dans le « j'ai », je sais que la personne c'est elle qui porte, c'est elle qui est en train de payer. Parce que le « j'ai », autrement, le langage est tout autre. Quand c'est Jésus qui a pris, il dit ben, « c'est fantastique, mais Jésus a porté à régler ce problème ». C'est plus moi, je n'arrive pas à résoudre cela, j'ai besoin d'être guéri, il y a besoin que Dieu vienne me restaurer dans mon identité, vienne me restaurer parce que j'ai été comme cassé à mes propres yeux. Et il y a des cas qui sont profonds, il y a des malaises profonds, il y a des comportements après qu'on ne comprend pas dans la vie parce que des gens ont été détruits au niveau de ce qu'ils sont. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que je les donne à Jésus, eh bien, j'en arrive à là. Semblable à celui dont on dit, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. J'ai décidé, lorsque j'ai compris cela, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas rentrer dans cette catégorie-là. Pendant tant d'années, je n'avais pas compris cela. Mais maintenant, Seigneur, je ne laisse pas passer les choses. Je veux reconnaître que j'ai besoin de toi dans cette situation. J'ai besoin que tu prennes le péché qui m'a été fait contre moi. Parce que je ne peux pas vivre, je ne peux pas me libérer de cela. Et qu'est-ce qu'il est dit? En réponse, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et cette femme serviteur de Dieu, ces deux femmes serviteurs de Dieu que je vous ai citées, elles ont porté ça pendant 40 ans. Pendant 40 ans. C'est pas moi qui l'invente. Moi, je l'ai porté pendant 46 ans. 46 ans, ouais, 46 ans. Le rejet de ma mère. Elle n'y a rien vu, maman. J'en ai parlé récemment. Un matin, j'étais en Suisse, vers elle. Et elle me dit, mais j'avais jamais compris tout ça. Et je lui ai parlé de plein de choses. Elle me dit, mais j'avais jamais compris tout cela. C'est des choses que jamais j'aurais imaginé que ça avait eu des conséquences dans ta vie. Et je lui dis, mais Dieu qui est un Dieu de grâce, il a voulu me guérir, il a voulu aussi que ce problème soit définitivement réglé pour toi aussi. On a prié ensemble, ça a été quelque chose de fantastique. On a une communion avec maman, je l'avais déjà avant, mais ça a resserré des choses d'une manière extraordinaire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, il les avait portées, et moi je continuais de les porter. Alors la question que je m'impose ce soir, s'il y a quelque chose à pardonner, est-ce que je continue à payer? Ou bien est-ce que j'accepte que quelqu'un d'autre paye? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voyez, ce regard extérieur à l'histoire de la personne. Celui qui écrit, comme c'est écrit, bon, on considère, oui Jésus, il est mort sur la croix, c'est vrai, tu es mort et tout ça. Mais dans mon histoire, et j'ai besoin de venir dans le concret de mon histoire, c'est pas simplement que je contemple ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de le traduire dans mon histoire pour que l'histoire de la croix fasse partie intégrante de mon fonctionnement et de ma guérison que Dieu me donne. frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, l'iniquité étant de la justice, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la traduction, on pourrait le mettre autrement, nous sommes accusés faussement. Quelqu'un qui a été outragé, qui a été battu, il se sent accusé, il y a une accusation. Alors, il la retourne contre lui, il la retourne contre les autres, mais il y a quelque chose, il y a un transfert. Et ce châtiment, lorsque j'accepte que ça tombe sur Jésus, ça tombe sur lui, afin que je sois dégagé de ces accusations fausses. Et vous avez plein de gens, quand vous les écoutez, ils sont en train de demander pardon pour la 100e fois pour l'autre qui leur a fait du mal. Vous avez dit, mais si j'avais pas été ceci, ou si j'avais pas passé par là, ou si j'étais rentré au train plus tôt, ou si j'avais été habillé autrement, il aurait pas fait ceci, il aurait pas fait cela. Et vous retrouvez toujours, c'est toujours, toujours. Tout ce que je dis, c'est toujours le même scénario. Mais Dieu merci, Jésus est venu pour casser tout ça. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus-Christ a été fait péché, il est important, je dis aux gens, prenez le temps, Jésus a pris le temps de mourir, laissez repasser les textes. Lorsque Jésus a pris le péché de cette femme dont son père l'avait violentée dans son enfance à 8 mois, lorsque Jésus s'est crié à son père, « mon Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est à cause de ce père. C'est à cause de ton papa, c'est à cause de ta maman, c'est à cause de ton frère, c'est à cause de ta sœur, c'est à cause d'un tel. Et à ce moment-là, il est coupé du père, il est coupé, il se retrouve seul, il est fait péché pour l'autre. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit que Jésus est descendu jusque dans l'enfer. Il est descendu jusque dans la mort. Et c'est bien la preuve qu'Ésaïe, que Romains 6, 23 est vrai. C'est qu'il en est mort. Et la réalité du préjudice que j'ai subi lorsque ma mère m'a rejeté, ça a coûté. Et aux yeux de Dieu, c'est tellement grave que ça a coûté la vie de son propre fils. Et donc la souffrance que vous avez, si vous avez été outragé, Dieu ne la regarde pas en disant « c'est rien, il faut que tu pardonnes, il faut que tu oublies, gna 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 ». Il lui dit « non, la réalité c'est que moi, je me rends compte, c'est tellement grave que tu es en train d'en crever. Et moi, j'ai décidé de prendre ta place. Est-ce que tu acceptes que je prenne ta place pour ça ? Est-ce que tu acceptes que je prenne cette souffrance et que j'en meure et que pour que tu puisses être dégagé? Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit que le 3e jour, Jésus a été ressuscité. Le Père est venu, il l'a ressuscité d'entre les morts. La mort a été vaincue, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Oh, béni soit le Seigneur. Il est vivant et il est sorti victorieux pour nous rendre notre innocence. Et quand il vient pour nous justifier. Et lorsque j'ai été bafoué, lorsque j'ai été battu, lorsque j'ai été rejeté, lorsque ces choses se sont passées, j'ai besoin, après, de venir vers Jésus ressuscité et d'aller prendre un cadeau. Et je dis aux gens, maintenant qu'on a laissé passer tous ces textes de la parole de Dieu, tendez vos mains vers Jésus, prenez le cadeau de votre guérison, prenez le cadeau pour que Dieu vous rende votre innocence. Et je leur dis, faites comme ça, croisez les mains sur votre cœur. Pourquoi je leur dis ça? J'essaye toujours d'être pratique. Il a dit, je serre ta parole dans mon cœur. C'est simplement pour ça. Mais j'ai besoin de faire. La foi, si elle n'est pas active, c'est beau, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je serre ta parole. J'ai besoin de cette guérison. J'ai besoin de prendre. Et la personne a besoin de laisser Dieu la réconforter, la renouveler, la chérir, lui redonner. A besoin d'entendre les paroles que Dieu veut lui dire dans le secret de son cœur et de sa vie pour qu'elle soit réhabilitée déjà à ses propres yeux, qu'elle retrouve sa dignité. Parce que quelqu'un qui a été battu, il a perdu une partie de sa dignité. Il l'a peut-être pas perdu complètement, mais il y a des choses qui ont été cassées en lui. Mais Jésus est venu pour me rendre ma dignité. Béni soit le Seigneur. C'est extraordinaire son œuvre. Et à partir du moment où je suis guéri, ben c'est ce que je dis aux gens. Je dis maintenant, Jésus vous a donné un cadeau, mais il y a un autre cadeau. C'est un cadeau pour celui qui vous a fait du mal. Est-ce que vous l'allez maintenant prendre ce cadeau et lui le donner? Et là, vous prenez ce cadeau. Je dis, vous le prenez et vous lui dites, je te donne ce pardon de Jésus. C'est plus eux qui payent. mais c'est ce cadeau de Jésus qui est donné. Et lorsque la justice de Dieu a été rendue, lorsque l'œuvre de la croix a été accomplie, dans laquelle nous sommes rentrés, eh bien, il est possible de donner le pardon, même à celui qui a été le plus offensant. Et cette sœur, de me dire, quelques années après, elle m'a dit, celle qui avait été violée par son père, enfin cet inceste, elle me dit, ça a changé ma vie de prière pour mon père. Je peux prier avec tout mon cœur pour lui. Avant, je le faisais parce que la Bible me le disait, mais il n'y avait pas, c'était pas avec mes tripes que je le faisais avec mon cœur. Je le faisais comme ça. Elle dit maintenant, mon père, je le regarde autrement. Et je lui ai dit, mais ton père a besoin de régler aussi son problème. Ça c'est aussi important. Celui qui m'a fait du mal, je crois que si lui meurt et si moi je meurs, juridiquement dans le ciel c'est fait, mais l'autre a aussi besoin de régler son problème. Il a besoin de changer, il a besoin de rectifier sa vie s'il y a des choses qui sont tordues. Il ne s'agit pas d'aller se rejeter dans la gueule du loup, mais de régler ce qui est à régler. Mais ce travail se fait à l'intérieur de notre vie. Il se fait à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose, je crois, d'extrêmement important de placer bien le décor de l'œuvre de la croix. Hein, de remettre profondément ce que ça a coûté. La question qu'on peut se poser, ce que j'ai souffert, qu'est-ce que ça coûte? Comment Dieu le voit? Eh bien, Dieu le voit au prix de la vie de son propre fils. Vous voyez qu'il ne regarde pas en disant « c'est rien ». Faut passer l'éponge comme ça. Non, c'est pas rien. C'est extrêmement grave ce qui t'est arrivé. C'est tellement grave que mon fils a dû en mourir. Amen. Jésus-Christ est venu pour rétablir son église, rétablir ses enfants, pour venir guérir. Cette femme, la première que je vous disais qui avait son enfant, lorsqu'elle a fait ce travail de pardon vis-à-vis de son mari, et tout le monde me dit, c'est bien de l'entendre, mais alors quand je l'ai fait, c'était tout autre chose. C'est bien si on sait ces choses, pourvu qu'on les met en pratique. Alors moi, je vous propose un petit contrat. C'est de pouvoir, vous, que vous puissiez le faire une fois comme je vous ai dit. Hein? De placer la personne, de citer la parole de Dieu, de poser la question à Jésus, de laisser dérouler l'histoire de la parole de Dieu. Et de bien laisser le temps à toute l'œuvre de la croix de repasser, je crois que ça nous fait du bien, et ensuite de prendre notre guérison, de donner la guérison à l'autre. Faites-le comme ça, puis après vous l'adapterez pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça et toujours, mais faites-le. Vous savez, je l'ai fait déjà des dizaines de fois personnellement, parce que des fois, il y a quelque temps, j'étais en Sardaigne chez un pasteur, il me filait un bouquin, j'étais en train de lire un bouquin et paf, j'ai une phrase de mon père qui sort du bouquin et qui me prend en pleine poire. C'était 3h du matin, j'ai fermé le livre, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, t'as pris le temps de mourir, moi je peux bien prendre le temps de régler ce problème, et je ne perds pas mon temps lorsque je repasse l'œuvre de la croix dans ma vie. Ça c'est ce que je crois. Mais cette femme, avec son enfant qu'elle rejetait, elle a fait ce travail de pardon. Et quelques temps, quelques mois après, je l'ai revue, elle m'a dit, frère, mais écoute, c'est dingue. Mon fils, il se jette vers moi, mais j'ai plus de problème. Ce verset, je l'ai compris, Matthieu 6, c'est un verset d'une extrême sagesse. Dieu dit, mais si tu ne règles pas le problème qui est avant, ton comportement ne peut pas changer après. Si je ne pardonne pas celui qui m'a offensé, c'est impossible que mon comportement change vis-à-vis de l'autre. Et cette femme, elle pouvait demander pardon encore 100 ans, et je crois que chaque fois qu'elle demandait pardon, Dieu la pardonnait, mais Dieu ne voulait pas la laisser dans l'illusion de croire que le problème était dans le comportement qu'elle avait. C'est ce qui était avant. C'est ce qui provoquait ce comportement qui avait besoin d'être réglé. Je vous propose maintenant que nous puissions prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer parce que tu es ce Dieu des miracles, ce Dieu des merveilles, ce Dieu qui est venu jusqu'à nous afin que nous puissions être pardonnés, afin que nous puissions être sauvés. Mais également tu es venu vers nous afin que nous puissions être guéris des blessures subies. Et ce soir, dans ces moments, nous voulons te remercier parce que ta puissance est à l'œuvre. Et je sais, Seigneur, que ceux qui sont en train d'écouter cette cassette, comme pour chaque personne qui est ici, nous savons, Seigneur, qu'il y a des points qui sont ressortis de notre cœur et nous ne voulons pas les laisser tomber comme cela, mais nous voulons te les apporter. Nous voulons laisser passer toute l'histoire de ta parole. Nous voulons accepter de dire ce que ta parole dit et nous voulons, Seigneur, recevoir cette guérison. Nous vous avons à cœur aussi de pouvoir donner ce pardon. Mais c'est vrai, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous guéris par ta puissance. Et j'aimerais bénir chacun et chacune. Que ta puissance glorieuse descende, se manifeste et que ton peuple soit guéri et heureux de te servir. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.